Chapitre 11e. Comment l'invincible Roland voulut fendre le crâne du bouillant Ferragus, et comment un philosophe sans pudeur rêva d'embrasser une grande reine. Il était 9h du matin, et le soleil dardait depuis longtemps ses rayons sur Grenade, lorsque Roland parut à l'entrée de la ville. Son casque était surmonté du cob gaulois, si cher à tous les enfants de la vieille France, et si connu dans le monde entier. Tous les grenadins, frappés de sa haute mine et de sa fière apparence, se demandaient avec curiosité qui pouvait être ce guerrier redoutable. Mais aucun d'eux n'osa l'arrêter ni le questionner. Il s'avançait au pas dans les rues, calme et assuré comme un roi qui se promène dans son royaume. Nul page, nul écuyer ne l'accompagnait. Rimbaud seul le suivait de loin, assez inquiet du succès de l'entreprise. Enfin, le comte d'Angers arriva en vue du palais de Ferragus et arrêta son cheval à l'entrée du vestibule. Les écuyers de Ferragus s'empressèrent autour de lui pour tenir l'étrier et aider le chevalier à mettre pied à terre, mais il fit signe de la main qu'il n'avait pas besoin de leur service et, sans descendre de cheval, « Avertissez Ferragus, dit-il d'une voix retentissante, qu'un chevalier qui défend la justice et les dames l'a déclaré traître et félon. » Et lui redemande l'héritage de la princesse Doralis, qu'il a ravie au roi Stourdilan en lui ôtant la vie. À ces paroles, la frayeur s'empara de tous les assistants. Ceux qui haïssaient le plus Ferragus ne doutaient pas de son succès et plaignaient le chevalier qui bravait une mort certaine. « Seigneur chevalier, dit un grenadin, Roland l'interrompit. Si personne de vous n'est assez hardi pour porter ce message, je vais sonner du cor. » En même temps, il prit son olifant et souffla dedans avec une telle force que toutes les fenêtres du palais se brisèrent et que le son de l'olifant fut entendu à plus de 30 lieues dans la Sierra Morena. À ce bruit, Ferragus tressaillit. « Je reconnais cet olifant, dit-il, c'est celui de Roland. » En même temps, il parut à la fenêtre et vit le comte d'Angers. Le fils de Marsile était le plus intrépide et le plus féroce de tous les chevaliers sarrasins. La vue de Roland ne l'effraya donc pas. Il demanda ses armes et son cheval, et voulut à l'instant même terminer la querelle en combat singulier. Mais les émirs et les principaux chevaliers de sa cour le supplièrent de ne pas exposer sa vie, si précieuse contre un homme désespéré. « Il suffit de fermer les portes de la ville, dit un émir, et le comte d'Angers est à nous. »« Vous ne le connaissez pas, répondit Ferragus. » Cependant, il ordonna qu'on appelât sous les armes toute la garnison de Grenade et revêtit sur le champ son armure. À peine avait-on agrafé son casque et sa cuirasse, lorsqu'on entendit dans le lointain le bruit des tambours et des trompettes. « Qu'est-ce encore ? » dit Ferragus, inquiet. Au même instant, on entendit une voix, perçante et distincte comme un clairon, lire à haute voix dans les rues la proclamation suivante. « Chevalier, écuyer, bourgeois, manants et vilains de la noble ville de Grenade, écoutez tous et obéissez, car ceci est l'ordre de l'empereur Charlemagne, qui vient d'arriver cette nuit sous les murs de Grenade avec 500 000 hommes, dont le comte Roland commande l'avant-garde. Attendu que le nommé Ferragus, mécréant de profession et fils du roi Marsile, s'est indûment emparé des états du roi Stourdilan, notre allié, attendu qu'il a coupé la tête au dit Stourdilan et dépouillé sa fille de son légitime héritage, attendu qu'il tient captive la dite héritière et qu'il l'a épousée par force et violence, ce qui est contraire à toutes les lois divines et humaines, attendu que le dit empereur Charlemagne a été établi de Dieu sur la terre pour faire régner en tout lieu l'ordre, la justice et la paix, attendu que le nommé Ferragus a pillé et massacré sans frein et sans pudeur dans le royaume de Grenade et les pays circonvoisins, attendu que le bruit en est venu jusqu'au dit empereur Charlemagne dans sa cour d'Aix-la-Chapelle et que la grande dame du dit empereur ne saurait laisser impuni de tels forfaits qui offensent la majesté de Dieu même, ordonne le dit empereur que le nommé Ferragus, soi-disant prince d'Espagne et fils du roi Marsile, sera conduit la corde au cou, les fers aux pieds et aux mains devant le dit empereur pour être pendu, brûlé ou empalé suivant l'urgence du cas et le jugement de la noble cour des 12 pères, et chargé le comte Roland de l'exécution de la dite sentence. Ferragus pâlit de rage en entendant cette lecture et saisit sa lance en poussant d'horribles blasphèmes. Tout à coup, la trompette sonna de nouveau. Le tout-puissant, très clément et très miséricordieux empereur, ajouta le crieur public, promet la vie sauve et sa protection à tous les grenadins qui prendront les armes contre le dit Ferragus et fera empaler tous les autres. À ces mots, un grand cri s'éleva dans la place et se répandit en peu d'instants dans toutes les rues de Grenade. Le peuple, qui croyait à l'arrivée de Charlemagne et de ses preux et qui détestait Ferragus, courut aux armes. Le fils de Marsile se trouva seul avec les 20 000 chevaliers qu'il avait amenés de Saragosse. « Eh bien, dit à Rimbaud, une voix bien connue, que pensez-vous de ma petite proclamation ?»« Qu'il est impossible de mieux dire, répondit le Gascon en reconnaissant Ali. « Mais il faut voir comment tout cela finira. » Toute la ville était en tumulte. On tendait des chaînes dans les rues, on faisait des barricades, on amassait des pierres sur le bord des fenêtres pour les jeter sur la tête de Ferragus et de ses chevaliers. On fermait avec des barres de fer les portes des maisons. Les hommes couraient au hasard, les femmes pleuraient, les enfants criaient. Et Roland, premier auteur de tout ce tapage, attendait en silence, immobile et monté sur bride d'or, le résultat de son défi. La princesse Doralis, attirée par le bruit, parut à l'une des fenêtres du palais et tendit les bras vers le chevalier en implorant sa protection. « Je ne sais, dit Roland à Rimbaud qui l'avait rejoint, mais il me semble que la journée sera bonne. Durandal ne m'a jamais paru si légère et si facile à manier. Dit Rimbaud. « Je n'aime pas ces présages-là, et je plains le pauvre Ferragus. Vous le connaissez, je pense. »« Si je le connais, » dit Roland, « parbleu, nous nous sommes déjà battus 3 fois. Et chaque fois, un malheureux hasard l'a dérobé à mes coups, mais aujourd'hui... » Comme il disait ces mots, Ferragus parut, monté sur un magnifique cheval dont Bride d'Or lui-même aurait à peine égalé la force et la vitesse. Derrière lui se pressaient 50 chevaliers bien armés et la lance en arrêt. Roland n'en fut pas étonné. « Rends-toi, comte !» cria Ferragus. « Ou tu es mort ?»« Tu oublies à qui tu parles ?» répliqua Roland. « Et que je t'ai défié à mort. »« Rends-toi-même son héritage à la princesse Doralis ou prépare-toi à mourir. » Un sourire sinistre parut sur les lèvres du Sarrasin. « Tu l'as voulu, que ta destinée s'accomplisse. Et vous, amis, faites votre devoir. » À ces mots, il piqua des deux, et partit au galop pour percer le comte d'Angers de sa lance. Mais celui-ci, qui s'attendait au choc, lança de son côté Bride d'Or sur le fils de Marsile. À cette vue, tous les spectateurs demeurèrent immobiles et frissonnants de crainte et d'espérance. Le choc fut si violent que les deux chevaux plièrent sur leurs jambes de derrière et que les croupes touchèrent la terre. Les lances se brisèrent avec un bruit terrible et les éclats volèrent jusqu'au toit du palais. La lance de Roland avait frappé le milieu du bouclier de Ferragus, et la lance de Ferragus le cimier de Roland. Ni l'un ni l'autre des deux combattants n'en parut ébranlé. Leurs armures étaient si solides et faites d'acier si bien trempé que les deux guerriers mirent l'épée à la main sans avoir reçu aucune blessure. Le combat continua plus acharné et plus terrible. Roland fit le premier couler le sang de son ennemi. D'un coup de pointe de Durandal, il perça la cuirasse de Ferragus près de l'épaule. Le Sarrasin poussa un cri terrible. « À moi, mes vaillants émirs !» À ce cri, les 50 chevaliers vinrent le dégager et l'arracher tout sanglant aux mains de Roland. Celui-ci fut saisi d'indignation. « Lâche et perfide Sarrasin !» lui cria-t-il. « Crois-tu donc m'échapper par la fuite ?» Il voulut le poursuivre, mais en vain. La foule des chevaliers se jeta entre les deux combattants, et le comte d'Angers se vit forcé de songer à son salut. Il commença à s'ouvrir un large passage avec le tranchant de Durandal. Mais le nombre de ses ennemis croissait à chaque instant, et son bras, fatigué de frapper, commençait à s'apesantir. Tout à coup, la voix d'Ali se fit entendre dans la mêlée. « Aux armes, grenadins ! Ferragus est tué ! Ses soldats n'osent plus résister ! Achevons leur défaite ! Aux armes ! Aux armes !» Au même instant, une grêle de pierres, de tuiles et de javelots tomba sur la tête des ennemis de Roland et commença à le dégager. De toutes les fenêtres, de tous les toits, on lançait sur les soldats de Ferragus des meubles, des marmites, des pots de terre, tout ce qui peut servir à fendre, casser ou briser la tête de l'homme, ce chef-d'œuvre de la nature. Ce secours imprévu arriva fort à propos pour dégager le comte d'Angers, que son courage avait entraîné dans une entreprise au-dessus des forces humaines. Il s'aperçut que toutes les rues avaient été barricadées en un instant. Les chaînes étaient tendues pour arrêter la cavalerie, et une foule de grenadins avait pris les armes sans savoir pourquoi ni comment, si ce n'est qu'ils haïssaient Ferragus et les maîtres de Saragosse, qu'on leur promettait de les en délivrer, et qu'on leur annonçait l'arrivée de l'invincible Charlemagne, lequel, bien que chrétien, ne pouvait pas être plus odieux que le fils de Marsile. Cependant, les chevaliers de Ferragus, étonnés d'avoir à combattre les grenadins, ne tardèrent pas à reprendre courage, et l'on se battit dans les règles. En moins de 2 heures, près de 5 000 hommes avaient cessé de vivre des deux côtés, et Rimbaud, qui était un philosophe consommé et un parfait chrétien, se réjouissait d'avoir excité un si grand tumulte parmi ses mécréants et d'avoir causé la mort de tant d'infidèles. Il était midi passé et la fatigue commençait à gagner tout le monde. Les bons bourgeois de Grenade, tout fiers de leur ouvrage, songèrent qu'il était temps de dîner. Ali, qui s'en aperçut, se hâta de proposer une trêve que les soldats de Ferragus acceptèrent avec joie. Ceux qui étaient morts restèrent sur le pavé. Ceux qui étaient blessés se firent panser comme ils purent, et ceux qui n'avaient pas une égratignure furent ravis d'avoir assisté à une belle bataille qui ne leur avait pas coûté un cheveu de la tête. Je n'ai pas besoin de dire que Roland avait bien fait sa partie dans ce concert et qu'autour de lui les soldats de Ferragus gisaient entassés par monceaux. Lui seul dédaigna de prendre part à la trêve, et quoiqu'il ne fût pas sorti sans blessure de la bataille, il se rongeait les poings de fureur de n'avoir pu tuer Ferragus. Il le cherchait partout des yeux, mais le fils de Marsile, aussi prudent que brave, prenait autant de soin d'éviter que Roland de chercher le combat. Heureusement, la vue du sang versé avait fort refroidi le courage des deux parties. D'ailleurs, les grenadins gagnaient visiblement du terrain, et les soldats de Ferragus, sans vivre et sans abri contre la chaleur du soleil, murmuraient hautement contre leur chef. Rimbaud, qui s'en aperçut, s'approcha de Roland. « Eh bien, seigneur comte, n'ai-je pas fait de bonne besogne ?»« Excellente, » répondit Roland, « mais elle serait bien meilleure si tu pouvais me faire rencontrer Ferragus face à face. » « N'est-ce que cela ? » dit Rimbaud. « Eh, parbleu, vous aurez ce plaisir tout à l'heure. » Il alla trouver Ferragus, qui était entouré de ses principaux émirs et de l'élite de son armée. « Seigneur, le contrôlant m'a chargé d'un message pour vous et pour ces nobles chevaliers. Si je le remplis, m'assurez-vous la vie sauve ?»« Drôle, tu peux parler, » dit Ferragus irrité. « J'hésite un peu, » reprit Rimbaud d'un air humble, « parce que je crains que le message ne vous soit pas agréable. »« Au nom du diable ou au nom du prophète, parle, je suis prêt à t'entendre. » « Seigneur, » répliqua Rimbaud, « souvenez-vous que vous l'avez voulu et ne me faites pas repentir de ma sincérité. »« Que de façon, ventre Mahom, parle ou je te fais empaler. » »« Seigneur, le contrôlant, mon maître, m'a chargé de vous dire qu'il a pour tous les nobles chevaliers qui vous entourent le plus profond respect et la plus grande bienveillance, qu'il n'en veut qu'à vous seul et qu'il les laissera libres de rentrer à Saragosse si vous voulez vous battre avec lui seul à seul. » « L'offre est honorable pour ces braves chevaliers, » dit Ferragus en ricanant. « Attendez un peu, seigneur. Je n'ai pas tout dit. Il ajoute que si vous refusez le combat qu'il propose, il vous considérera comme un chevalier traître et félon, sans courage et sans honneur, et qu'il livrera votre corps au corbeau. » Les soldats de Ferragus se regardèrent indécis. L'arrivée de Charlemagne, qu'ils croyaient aux portes de la ville avec 500 000 hommes, la réputation de Roland et la révolte des grenadins, sans compter la soif et la chaleur, leur donnèrent un si vif désir de rentrer dans Saragosse qu'ils commencèrent à murmurer. Ferragus les regardait plein de fureur et de crainte. Comment refuser le combat sans lâcheté et comment échapper à l'épée redoutable de Roland? Enfin, il prit son parti en brave. « Va dire au comte d'Angers que j'accepte le défi et qu'avant le coucher du soleil, l'un de nous ira visiter les ombres de ses pères. » Rimbaud s'empressa de s'acquitter de ce message, que Roland reçut avec une joie profonde. Les deux adversaires se dirigèrent, chacun de leur côté, vers la lice qui servait au tournoi, et le peuple entier les suivit, faisant des vœux pour Roland. Ferragus prit un cheval frais, une lance nouvelle, fit donner une lance au comte d'Angers, et un autre cheval pour remplacer Bridor, fatigué, et tous deux, au même instant, partirent au galop et se rencontrèrent vers le milieu de la lice. Le sarrasin, contre toutes les lois de la chevalerie, frappa droit au poitrail le cheval de son adversaire qui tomba mort. Roland, dont la lance avait frappé le bouclier de Ferragus sans le percer, se trouva ainsi démonté et presque hors d'état de se défendre. En cet état, le fils de Marsile comptait venir à bout de lui sans la force prodigieuse et le sang-froid du paladin. « Traître !» s'écria Roland, « tu sauras ce que vaut Durandal !» En même temps, il évita le choc de Ferragus, qui cherchait à le fouler au pied de son cheval, et lui donna un si furieux coup d'épée dans la cuisse que l'armure et la côte de maille furent tranchées. Le sang jaillit à flot de la blessure. Tout autre que Ferragus aurait succombé sous ce coup terrible, mais le sarrasin était si robuste et si intrépide qu'il s'aperçut à peine de la perte de son sang. Il ramassa toutes ses forces et déchargea sur la tête de Roland un coup de son cimeterre qui fit frémir tous les spectateurs. Le héros para le coup à demi avec Durandal, mais il en demeura quelques moments étourdi et baissa la tête, et si le cheval de Ferragus, effrayé du bruit des armes, n'avait emporté son maître loin de Roland, la victoire serait peut-être restée au sarrasin. Heureusement, le paladin eut le temps de reprendre ses esprits, et lorsque Ferragus, maître enfin de son cheval, voulut recommencer la lutte, il trouva le comte d'Angers sur ses gardes et prêt à le recevoir. Ce dernier combat fut court, mais terrible et décisif. La pointe de Durandal entra de deux pieds dans la poitrine du sarrasin et ressortit par le dos. Ferragus lâcha les rênes de son cheval, quitta les étriers, étendit les bras et tomba mort sur le sable. À cette vue, un long cri de joie retentit parmi les grenadins. Roland leva son épée en l'air et cria « Vive la reine Doralis !» Tout le peuple répéta l'envi « Vive Doralis, vive notre reine adorée, vive Roland, vive Charlemagne !» et voulut recommencer le combat contre les soldats de Ferragus. Mais Roland, fidèle à sa parole, leur permit de sortir et en paix. Quand le dernier de ses soldats eut quitté la ville, Rimbaud, qui les regardait partir appuyé sur le bras d'Ali, dit à celui-ci « Eh bien, mon cher ami, tu dois être content, tu as vu une révolution. » « Ma foi, » dit Ali, « ce n'est pas plus amusant qu'autre chose. Je m'attendais à voir quelque chose de plus curieux. »« Philosophe, bah, » dit Rimbaud, « tu n'es jamais content. Que te faudra-t-il donc ?»« Pas grand-chose, » dit Ali, « je voudrais embrasser Doralis. » »« Toi, un mangeur d'oignons, tu n'es pas dégoûté. Parbleu, où serait le plaisir si j'étais couvert comme elle de tous les parfums de l'Arabie, et si je pouvais lui dire tous les soirs après souper, « Ma chère enfant, donne-moi mes pantoufles. » Ah ah, dit Rimbaud, l'ambition te perdra. Embrasser une reine, par ma dague, tu es un hardi gaillard. Que veux-tu? Dit Ali, c'est ma fantaisie à moi. Les poètes, qui font des vers, ont la ressource de mettre leurs extravagances sur le papier, et de garder toute leur sagesse pour le cours ordinaire de la vie. Mais les gens comme moi, qui vivent seuls, qui mangent des oignons et qui pêchent des truites, rêvent souvent qu'il serait doux d'embrasser une reine. Cela les amuse, leur fait supporter la vie et ne fait de mal à personne. Je vais au palais, dit Rimbaud. Veux-tu que je te présente à Doralis? Je me présenterai bien moi-même quand il en sera temps. Va faire ta cour, poète. Va flatter, philosophe. Va lécher, chien. Rimbaud se mit à rire et courut droit au palais.